Alors, Hugues, on a la chance, une fois de plus, de recevoir Valérie Tétrault, la directrice des communications de Tennis Canada. Merci, Valérie, de te joindre à nous une fois de plus cette semaine.
Ben, grand plaisir.
Valérie, on est à la mi-tournoi. Comment est le niveau d'énergie? Comment est le niveau de stress, etc.? Est-ce que tout se passe bien?
Oui, ça prend de plus en plus de caféine, mais maintenant tout va bien, puis on a un très beau tournoi, je trouve. Déjà, là, lorsqu'on regardait la journée de mercredi, beaucoup de matchs vedettes, disons, et les matchs ont été très, très longs. La qualité du spectacle est à la hauteur des attentes et même au-delà, donc je pense que la table est mise pour une belle conclusion de tournoi.
On te reçoit à presque mi-tournoi pour faire un peu un bilan de mi-tournoi. C'est une année particulière, une année exceptionnelle au sens exception du terme. Là. Comment ça se passe le déroulement des activités avec toutes les mesures COVID et toutes les mesures mises en place là, présentement?
Touche du bois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de problèmes. Hein? On n'a pas eu d'éclosion, on n'a pas eu de cas positifs non plus. Donc, c'est surtout ce qu'on voulait éviter. Ça a été un travail énorme, je pense, de la part de notre équipe, mais aussi en collaboration, évidemment, avec la WTA pour préparer le tournoi puis mettre en place tous les différents protocoles sanitaires pour assurer justement la sécurité de tout le monde. On en a souvent parlé, mais on est un peu le premier événement, disons vraiment international, qui a lieu au Québec. Alors, je pense que c'était important lorsque les gouvernements nous ont donné leur confiance pour approuver finalement nos protocoles et nous dire, c'est bon, vous pouvez tenir l'Omnium Banque Nationale. Il fallait justement que tout ça soit mis en place et de bien faire les choses. Et pour l'instant, ça se passe bien. La bulle, on voit que ça fonctionne et on espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin du tournoi. Mais bon, sinon, on s'y attendait. C'est sûr que c'est pas un tournoi normal, justement. On voit la différence hein, avec peut-être les événements dans le passé. On est content évidemment de voir du tennis, de sentir que Montréal au moins commence à vibrer un peu et avoir la fièvre tennis. Les victoires des Canadiennes y sont pour quelque chose certainement, mais je pense que ça nous donne juste encore plus hâte à l'année prochaine lorsqu'on pourra, espérons-le, avoir un tournoi là, normal comme on le connaît dans les dernières années.
Ça c'est certain qu'on puisse le souhaiter, qu'on puisse peut-être aller voir des matchs sur la petite butte. Valérie Tétrault, là, qui avait été inaugurée il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne idée. Pourquoi pas aller regarder des matchs là dans un contexte normal avec plein de partisans autour avec un petit hot dog, une petite poutine, pourquoi pas une fois dans la semaine. Valérie, comment ça se passe au niveau de la vente de billets? D'habitude, le tournoi, particulièrement du côté des femmes, je pense que c'est le tournoi qui vend le plus pour un tournoi d'une semaine au monde. Présentement, comment ça va?
Ça se passe bien. Évidemment, on est limité à la capacité maximale de 5 000 sur le court central. Il reste encore des billets de disponibles, donc on n'est pas encore nécessairement à pleine capacité, mais je pense qu'on voit qu'on a une bonne foule. Et j'ai envie de dire, malgré la chaleur, hein, parce que je me passe le commentaire à chaque, surtout séance de jour, puis je me dis, ce sont de vrais passionnés pour aller s'asseoir comme ça en plein soleil, mais au moins, comme on le disait, la qualité du spectacle est là. Faut s'hydrater. Mais oui, tout ça pour dire qu'on a dû s'ajuster aussi au niveau de la vente de billets. On sait que normalement, on a des détenteurs de billets de série, donc qui sont là pour toute la semaine. Là, pour permettre au plus de gens possible de pouvoir assister à des matchs, on a fait ce qu'on appelle là, des mini-forfaits, donc pour un peu moins de séances, mais en espérant donner la chance à tout le monde de voir du tennis et ça a plutôt bien fonctionné.
J'étais à Val pour le premier match de Bianca mardi soir. Je trouvais que l'ambiance était étonnante, en fait, quand les gens se sont vraiment mis derrière elle dans le troisième set pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Je trouvais que l'ambiance était quand même, ça reflétait pas un feeling de 5 000 spectateurs. Comment vous sentez l'ambiance cette semaine jusqu'à maintenant dans le contexte?
Ben, je vois la différence justement lorsqu'il y a des Canadiennes. Ouais. Et je pense que Bianca le disait aussi dans ses commentaires d'après-match, et c'est là que ça fait une différence. On en parlait souvent, mais les tournois qui ont été tenus à huis clos, surtout pour les joueurs locaux, parfois c'est la foule hein, qui peut effectivement faire la différence au bout d'un match, et j'espère que ça continuera d'être le cas, mais on le voit dans différents événements sportifs, même lorsque c'est une foule qui est un peu plus petite, je pense par exemple au match évidemment du Canadien de Montréal, mais quand même la foule trouve le moyen de se faire entendre, et on dirait qu'on a tous été isolés dans des cages, puis là, on est tellement heureux de pouvoir retrouver une certaine normalité, pouvoir assister à des événements sportifs, et je pense que ça, ça se ressent. Après ça, bon, on n'est pas encore au niveau, disons, de 2017 avec l'histoire Chapovalov, là, mais on va finir par y revenir.
Et comment ça se passe au niveau du nouveau nom du tournoi? Nous, on est habitués, parce que ça fait plusieurs mois qu'on en parle, de l'Omnium Banque Nationale, on en parlait hier, il est bien rentré dans notre bouche. Là. Est-ce que on entend beaucoup le terme sur le site où il y a encore des mémoires du vieux nom? Là?
C'est un work in progress. ça va prendre un petit bout de temps, je pense. Puis bon, j'habite devant le stade, donc lorsque je me promène aussi autour, j'entends le voisinage qui dit « Ah, il n'y a pas de stationnement, parce que c'est la Coupe Rogers », puis là, j'ai envie de les reprendre. Mais c'est sûr que c'était tellement ancré en nous, hein, puis ça se disait bien « Ah, on va faire ça à la Coupe, on s'en va à la Coupe ». Donc là, bon, faut changer un tout petit peu l'habitude, mais ça va finir par rentrer, ça, j'en doute pas. Puis bon, au final, on s'entend, on est tout simplement chanceux d'avoir deux partenaires comme Banque Nationale et Rogers qui sont là depuis tellement d'années et qui investissent dans le tournoi, mais qui investissent aussi au-delà du tournoi dans le développement du tennis.
On en a déjà parlé hors d'onde, je pense, Valérie, et le monde le sait peut-être pas, mais c'est quand même un miracle ce que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire de changer de nom de tournoi, changer tout le branding autour du tournoi avec une équipe réduite, parce que, bon, Tennis Canada avait laissé aller beaucoup de monde au début de la pandémie pour des raisons bien évidentes, là, et vous êtes arrivé prêt, je veux dire, toute l'image de marque, en tout cas au tournoi, me semble tout à fait prêt. C'est presque, ça frôle le miracle, qu'est-ce que vous avez réussi à faire.
Ben, c'est gentil de dire ça, mais oui, ça a été, disons, un gros défi, évidemment, lorsqu'on change de nom comme ça, de commanditaire en titre. Ben, on voulait marquer, je pense, ce changement-là, en changeant aussi un petit peu l'image de marque. Donc, les couleurs ont changé, hein. Si vous avez prêté attention, on était beaucoup dans le rouge auparavant, là, on est un peu plus dans le bleu. Bon, je pense que ça nous donne aussi un nouveau souffle. Le changement, c'est bien. Mais c'est une espèce de transition, évidemment, parce que notre site, bon, est pas aussi déployé, évidemment, que dans une année normale. Donc, j'ai envie de dire que ça donne juste un avant-goût à ce que ce sera en 2022.
Ouais, exact. Ben, écoute, c'est un avant-goût en tout cas qui est déjà très très goûteux, je vais dire ça. Je vais dire ça comme ça pour utiliser tes paroles. Je pense qu'on peut faire un bilan de ce qui s'est passé à Toronto. Bon, il reste pas beaucoup de Canadiens pour dire il en reste pas. Mais c'est quoi ton bilan de mi-tournoi de ce qui s'est passé à Toronto? Faut dire qu'il reste encore des gros noms, là. Faut pas
oublier ça. Il reste des gros noms, mais c'est sûr que pour l'instant, ben, il y a eu quelques déceptions, hein, du côté de Toronto. On parlait du côté de Montréal où, disons que les As se sont alignés, là, jusqu'à présent pour nous donner tout un tournoi. À Toronto, ça a commencé avec le retrait de Rafael Nadal, qu'on attendait, qui performe habituellement très, très bien au Canada. C'était, je dirais, la grande tête de série en l'absence, évidemment, de Federer et Djokovic. Donc, les gens avaient très hâte de le voir et ça a été déjà là une grosse déception. Mais on se disait, de toute façon, on a des Canadiens, il y a Chapovalov, il y a Félix Auger-Aliassime, et s'ils peuvent justement remporter quelques matchs, ben la foule va même oublier probablement le retrait de Rafael Nadal. Mais là, on l'a pas oublié parce que Félix et Dennis, malheureusement, ben, se sont inclinés à leur premier match. C'est clair que c'est décevant. Je pense que ça ramène un peu la discussion aussi au fait que, oui, il y a une pression importante, hein, sur les joueurs canadiens lorsqu'on joue à la maison. Il y a l'avantage d'avoir la foule derrière soi, mais ça vient aussi avec une pression à gérer. et clairement, ben, ils n'ont pas nécessairement été capables de bien la gérer là, dans leur entrée en scène. En même temps, bon, ce sont deux joueurs qui ont connu d'excellents résultats à Wimbledon. Et là, depuis Wimbledon, ben, c'est un petit peu plus difficile. Je pense pas qu'il y ait de panique à avoir, mais on a hâte quand même qu'ils puissent renouer avec la victoire pour ben, préparer surtout le dernier tournoi majeur de l'année, le US Open.
Il ne faut pas avoir une vision tunnel non plus. T'sais, nous, on regarde surtout Félix et Dennis, mais c'est pas facile de gagner sur le circuit de l'ATP. Là. Des mois, des fêtes de suite sur au premier tour. À chaque année, à peu près chaque joueur va le vivre. Là. Alors, faut pas oublier ça. On en fait grand état. Là, mais là, j'ai une question pour l'ancienne joueuse. Parce que bon, on a vu Félix et Dennis, et tu me diras si je me trompe, hier en conférence de presse, très posé, très positif même, je dirais, dans leur façon de parler de leur défaite. Est-ce que tu sens que c'était une façade pour pas mousser, pour pas rendre les choses plus négatives qu'elles sont, ou tu sens que c'était vraiment authentique ce qu'ils ont dit en conférence de presse hier, c'est-à-dire pour l'essentiel, ben regarde, on s'est su, puis on recommence, puis d'attitude, là, on fera pas une grosse histoire avec ça.
Je dirais un mélange des deux, parce que c'est sûr que de perdre à la maison, probablement que ça amène encore un peu plus de déception et de frustration que s'ils avaient perdu ce match-là ailleurs sur la planète. Ça, j'en suis convaincue. Lorsqu'on parle, par contre, de gagner en maturité, j'ai envie de dire surtout du côté de Dennis, hein, parce que bon, je suivais évidemment les notifications, puis il s'est présenté en conférence de presse pratiquement instantanément là après avoir perdu son match. Et là, moi, j'ai eu comme réflexe, parfois, lorsque les joueurs font ça, c'est pour en finir rapidement, puis à chaud, c'est pas évident justement d'avoir une espèce de recul et d'être posé en conférence de presse, mais c'est vrai qu'il l'a été et je lui lève mon chapeau, là, sans mauvais jeu de mots, pour ça. Et je pense justement ben, que ça montre que maintenant, il commence à avoir de plus en plus d'expérience, mais comme je te dis, je demeure convaincue que ça les tiraillait un petit peu plus de perdre ces matchs-là du fait qu'ils jouaient à la maison tous les deux.
Et j'ai trouvé que c'était, je parlais de Félix et Dennis, mais j'ai trouvé que c'était une tendance générale, même si on regarde la conférence de presse de Simona Halep hier, elle aussi est relativement très positive. Je ne sais pas s'il y a comme un changement de mentalité dans la façon de spinner les choses au niveau des athlètes, mais j'ai l'impression qu'on essaie de voir beaucoup plus de positifs, en tout cas de façon publique, que ça l'a peut-être. Et c'était peut-être pas nécessairement le cas il y a quelques années. En tout cas, c'est peut-être ma perception qui n'est pas la bonne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Ben, il va falloir observer si c'est une tendance. Ouais. Dans le cas de Halep, bon, je pense que ça allait de soi, hein, parce qu'elle jouait une joueuse qui est sur toute une séquence, Danielle Collins. Mm-hmm. Elle mettait les choses en perspective au final parce qu'elle revient au jeu quand même premier match depuis plusieurs mois. Mais c'est sûr que depuis, disons, la saga, appelons ça comme ça, de Naomi Osaka, on parle de plus en plus, hein, des points de presse, de santé mentale. Donc, va falloir voir, parce que je suis persuadée qu'on va continuer d'en parler là dans les mois à venir, comment tout ça va évoluer. Et bon, pour les joueurs aussi, hein, pour l'instant, la plupart de leurs points de presse sont pas nécessairement directement devant les médias. C'est toujours aussi par conférence Zoom. Donc, est-ce que ça aussi, ça a un impact un peu sur... C'est pas nécessairement la même chose, s'entretenir devant un écran avec quelqu'un qu'en personne. Il faudra voir justement quand on reviendra un peu plus à la normale si ça changera les choses.
C'est intéressant. Que, je prends un petit point, Alex, sur ça, parce que tu touches un point qui me fait réfléchir un peu, parce qu'on parle beaucoup d'aménagement, justement, sur les conférences de presse. Est-ce qu'on est en train, peut-être, de mettre en place une nouvelle façon de faire la conférence de presse post-match? Parce que je me demandais aussi, en écoutant Félix et Dennis, je sentais le psychologue sportif derrière un peu, peut-être. Je me dis, donc, c'est bien, ils sont bien préparés, mais peut-être que le fait, effectivement, qu'il n'y a pas d'interaction avec les journalistes, ça rend il y a moins d'énergie et d'électricité dans l'air. Donc, c'est plus facile.
Ouais. Ouais, ben moi je pense que oui. C'est sûr que oui, la plupart des journalistes ils peuvent les voir à travers un écran, mais vous savez quand il y a une tension dans une salle et tantôt je parlais du match Shapovalov-Nadal en 2017, je me rappelle très bien quand Nadal s'est présenté dans la salle d'entrevue après ce match-là, puis il est arrivé dans la salle avant les journalistes, puis là il attendait, puis j'étais toute seule pratiquement avec lui et je la sentais la tension, donc Il y a quelque chose d'autre qui peut se passer lorsque effectivement on est en présentiel. Et autant il y a des avantages effectivement avec la nouvelle structure parce que ça permet aux médias d'un peu partout dans le monde de se connecter sans avoir à se déplacer. Autant je pense qu'on perd quand même un petit quelque chose versus le temps où on avait effectivement des conférences de presse avec les médias qui étaient sur place.
Est-ce que selon toi, les athlètes préfèrent ce type de conférence de presse-là à la différence d'avoir les journalistes d'en face, comme on dit?
Ben, je pense que ça peut dépendre des joueurs. Il y en a pour qui justement le contact humain prime et est important, et il y en a d'autres qui sont moins à l'aise, qui probablement préfèrent la formule actuelle. Je pense qu'il y a un peu comme tout le monde, pendant la pandémie, on a trop de temps d'écran, puis ça a eu ses avantages, ça nous a montré que on est capable finalement, tout le monde, je pense, de travailler en gros de la maison, mais en même temps, justement, le contact humain nous manque et les joueurs ne font pas exception à la règle.
À Montréal, Rebecca Marino est déjà l'histoire du tournoi d'une manière... Oui. Ou d'une autre, à quel point tu es contente pour une fille que tu connais depuis si longtemps?
Tellement contente, oui. Rebecca, ben, j'ai commencé à la côtoyer il y a longtemps dans les championnats canadiens. J'allais dire on était toutes petites, mais elle était déjà grande. On sait qu'il s'est passé toutes sortes de choses au cours de sa carrière. Là, ça n'a pas nécessairement été une ligne droite pour elle, mais je suis contente surtout de l'avoir aussi sereine sur le terrain. Puis lorsqu'elle dit qu'elle a du plaisir, qu'elle est dans le moment présent, ça se ressent. Et évidemment, ben nous, on fait allusion à ce qui s'est passé dans ce qu'on pourrait appeler sa première carrière, puis la dépression, puis tout ça. Mais on voit à quel point elle est complètement ailleurs aujourd'hui, et je trouve ça beau à voir. Et tant mieux, parce que lorsqu'elle a annoncé qu'elle allait revenir au jeu, c'était une grosse décision. Elle s'exposait à beaucoup de choses, hein, sans savoir nécessairement ce que ça allait donner. Il n'y avait pas de garantie de résultat. Il n'y avait pas garantie non plus que ses anciens démons n'allaient pas revenir. Et là, de l'avoir connaître du succès comme ça, puis bon, à la maison, ça a une saveur spéciale encore une fois. Donc, je suis vraiment très, très heureuse pour elle. Et elle l'a dit, mais elle a absolument plus rien à perdre. De toute façon, elle avait déjà rien à perdre en commençant le tournoi. Mais là, contre Sabalenka, ce sera une autre belle expérience, je l'espère, pour elle.
Elle est tellement authentique, par contre, en conférence de presse. Là, tu sens que c'est elle, puis elle est tellement gentille. Puis on le sent en conférence de presse qu'elle est ailleurs, qu'elle est bien et qu'elle a retrouvé le plaisir de jouer professionnellement. Je vais dire ça comme ça. Parce que le plaisir de jouer pour le plaisir de jouer, j'imagine que pour n'importe quel athlète, c'est un peu plus facile à retrouver. Mais le plaisir de jouer avec ce qui vient avec quand tu es un athlète professionnel, c'est une autre chose. Et on sent qu'elle est bien.
Oui. Oh. Valérie, dans le contexte justement où les sujets de santé mentale, de bien-être en général sont vraiment à l'avant-plan, là on vit l'histoire en temps réel avec Rebecca Marino, ce qui est vraiment intéressant. Donc elle est passée par cette étape-là extrêmement compliquée, difficile pour elle, qui l'a beaucoup affectée, qui l'a fait arrêter son sport. Et là, c'est la démonstration qu'on peut réussir à gérer et revenir. Donc cette histoire-là, tant au niveau sportif que personnel, prend toute une autre dimension dans le contexte de 2021. Donc
exact. Ouais. Je pense qu'elle devient un modèle pour bien des gens, parce qu'au moment où elle a vécu, disons, sa dépression, on était peut-être dans un peu plus, en tout cas, les débuts des médias sociaux, puis de l'impact que ça pouvait avoir sur des athlètes professionnels, alors que là, on en parle beaucoup plus, mais elle a déjà énormément cheminé à travers ça, puis on sent qu'elle a appris à naviguer à travers tout ça, mais aussi à se connaître un peu mieux comme personne, à savoir où sont ses limites, comment elle peut bien s'entourer pour être capable de gérer tout ça. Et le fait qu'elle soit apte aussi à en parler ouvertement devient un beau modèle pour les jeunes, et j'espère qu'elle sera capable justement d'en accompagner quelques-uns qui pourraient avoir certaines difficultés, disons, dans l'avenir, là.
Ben Valérie, merci beaucoup de t'être joint à nous pour ce bilan de mi-tournoi. On te laisse retourner travailler. Le plus gros est passé, le plus fun est à venir. Lâche pas, Valérie.
Merci beaucoup à vous deux, puis bonne fin de tournoi.
Merci, Val. Voilà.